Bonjour, bonjour à tous. Mardi 20 novembre 2018, je pense qu'il n'y a que le studio qui n'est plus un endroit tout blanc à Montréal ce matin parce qu'il neige, il neige tout ce qu'il peut et nous sommes bien au chaud, bien installés. C'est Louis de Bernis qui vous parle et je dis nous parce que je suis en compagnie de Côme et de Yves-Olivier. Bonjour messieurs.
Bonjour à tous.
Allô.
Comment allez-vous ce matin? Pas trop refroidi?
Rafraîchi.
Rafraîchi seulement. Et bien en forme avec moi pour cette heure d'émission, lors de laquelle nous allons couvrir bien des sujets, aller un peu dans toutes les directions et essayer de vous intéresser. Tourne vers vous, Côme, quels sont les sujets au menu ce matin?
Eh bien, une fois n'est pas coutume, on va retourner très rapidement dans l'espace.
On commence
un tout petit peu. On commencera par ça d'ailleurs.
À s'y faire avec vous.
On parlera un peu de temps. Exactement, qu'est-ce que le temps? Et on parlera du début de la vie aussi. Voilà.
Une matinée très philosophique ce matin. On va aller chercher des petites coupes, des tasses de thé peut-être pour réfléchir à tout, au sens de tous ces concepts-là. Yves-Olivier, de votre côté, il y a un sujet que nous attendons depuis deux semaines.
Oui. Mais alors oui, je le devine. C'est le cocktail de la semaine, c'est ça?
Il y en a un autre que vous nous aviez annoncé.
Bon, alors, avec un cocktail de la semaine à la main, je vous parlerai des mannequins.
Ah, enfin.
Pourquoi les mannequins ne sourient pas?
Voilà, donc on continue avec les questions philosophiques. Et avez-vous d'autres sujets?
Oui, ensuite, bon, on va y aller avec de la légèreté. Il va falloir parler de feuilles mortes et pourquoi le fait de les ramasser est une fausse bonne idée.
Pour finir,
si jamais on a du temps, donc encore une fois, avec le cocktail de la semaine dans la main, on partira en Islande. Et on va découvrir ce pays. Vous allez m'assister, cher Louis.
Très bien. Alors, nous allons vous assister ce matin. De mon côté, des nouvelles étonnantes, comme d'habitude. Je vous parlerai, par exemple, de la technique pour fabriquer des briques avec de l'urine. C'est possible. On n'arrête plus le progrès. Et également, nous partirons en Tanzanie, où la production de noix de cajou va être achetée, pas par n'importe qui, pas par une entreprise, par l'armée. Et je vous expliquerai pourquoi cette situation un peu insolite. C'est dans quelques instants tout ça, dans les voies de service. Et débutons cette émission en fanfare et dans l'espace. Allons, propulsons-nous directement.
Effectivement, bon, on va pas partir trop loin cette fois, on va rester quand même dans le système solaire. Hein, voilà. Je vais vous parler d'Encelade. Savez-vous où se trouve Encelade et ce que c'est exactement?
Pas du tout. Est-ce une capitale d'une étoile?
Capitale, presque. Alors, c'est une des lunes, tout simplement une des lunes de Saturne. L'une des nombreuses lunes de Saturne. Donc, un accord a été signé entre l'agence spatiale américaine et la fondation du milliardaire russe Yuri Milner. Il vise notamment à définir les meilleures technologies permettant d'identifier d'éventuelles signatures biologiques au-dessus d'Encelade. Il y a donc tout juste un an, le milliardaire russe Yuri Milner annonçait son intention d'organiser une mission privée afin de rechercher d'éventuelles traces de vie sur Encelade, sixième satellite de Saturne par sa taille, qui depuis quelques années est au centre de toutes les attentions. Cette lune abrite en effet un océan d'eau liquide sous une épaisse couche de glace, alimentée en profondeur par des sources hydrothermales et crachant en surface de la vapeur d'eau, des sels, de l'hydrogène moléculaire et même des molécules organiques complexes. Ingrédients qui pourraient permettre l'éclosion de la vie telle qu'on la connaît. Ils ont été identifiés lors de plusieurs survols effectués par la mission américaine Cassini, qui s'est écrasée en septembre 2017 sur la planète aux anneaux après avoir épuisé son carburant. Aucune mission n'a depuis lors été programmée pour retourner sur Encelade et analyser plus en détail ces intrigants éjecta. Lors d'une conférence organisée aux États-Unis en novembre 2017, Yuri Milner avait ainsi déclaré « Pouvons-nous concevoir une mission à bas coût ?» financé par des fonds privés, qui seraient organisés relativement vite et pourraient étudier minutieusement ces panaches et tenter de savoir ce qu'il se passe là-bas. Et ce, avant la mission beaucoup plus onéreuse que la NASA considère actuellement, mais qui pourrait prendre 10 ans avant d'être lancée. Son projet a bel et bien été lancé, et la NASA apporte même son concours, en mobilisant une kyrielle d'experts dans les domaines de la planétologie, de l'astrobiologie, des sciences de la Terre, etc. Révélé tout récemment par le magazine britannique New Scientist, un accord a été en effet signé le 13 septembre 2018 entre la NASA et la fondation Breakthrough Starshot, financée par Yuri Milner. La NASA n'apporte pour le moment aucune aide logistique ou matérielle, mais uniquement un panel de précieux conseillers pour un coût de $72 000. Ils s'attachent notamment à définir les meilleurs instruments susceptibles d'identifier des signatures biologiques au-dessus de la surface d'Encelade. La fondation Breakthrough Starshot importera ainsi le gros des subsides, même si le coût total de cette mission pourrait n'être que de quelques dizaines de millions de dollars. Effectivement, c'est relativement raisonnable. Et non plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards de dollars, comme c'est le cas pour les missions d'exploration de la NASA. Pour réduire les coûts, la fondation de Yuri Milner pourrait utiliser de nouvelles technologies, utilisant des voiles solaires, comme pour son projet phare visant à envoyer une armada de sondes minuscules en direction d'Alpha du Centaure, le système d'étoiles le plus proche du Soleil. La première phase du projet concernant Encelade, qui vise à déterminer un concept de mission et sa faisabilité, s'achèvera en décembre 2019.
Et vous nous parlez de nouvelles technologies pour nous envoler vers l'espace. Je vous ramène un peu sur Terre, mais je vous parle moi aussi de nouvelles technologies. Et c'est tout à fait naturel, organique même. Je vous propose de construire une maison, pourquoi pas, en tout cas des briques, avec de l'urine. Des briques fabriquées à partir d'urine humaine. Voilà la dernière trouvaille de chercheurs sud-africains de l'Université du Cap, travaillant sur des matériaux de construction durables et moins nuisibles pour l'environnement. Ces biobriques, une innovation mondiale, pourraient utilement remplacer les habituelles briques en terre cuite ou béton, espère-t-il. En utilisant une technique inspirée de la formation naturelle des coquillages, ces chercheurs, deux étudiants et un professeur, ont réussi à faire pousser des prototypes de ces briques d'un nouveau genre. Cela a pris 6 à 8 jours seulement. Une étude de faisabilité avait été lancée l'an dernier grâce à une bourse du Conseil de recherche sur l'eau, un organisme gouvernemental sud-africain, en utilisant au départ de l'urine synthétique, puis de l'urine humaine. « J'ai toujours été curieux de savoir pourquoi nous n'utilisions pas l'urine comme cela », explique à l'AFP Dylan Randall, le professeur qui a supervisé l'un des deux étudiants. La réponse est simplement « oui, c'est possible ». En fait, nous avons fabriqué la première biobrique à partir d'urine véritable. Ce processus est étonnant parce qu'en gros, nous avons juste fait pousser des briques à température ambiante, s'amuse-t-il. Les chercheurs ont pu produire cette biobrique au bout d'un an en laboratoire, mélangeant de l'urine, du sable et des bactéries. Ils se sont servis d'un processus naturel, la précipitation microbienne de carbonate, pour fabriquer leurs briques. La recherche en est encore à ses balbutiements pour parvenir à fabriquer une brique. Il faut actuellement jusqu'à 30 litres d'urine. La matière première est récupérée grâce à un urinoir spécial réservé aux étudiants masculins de l'université. Ces trois premières briques ainsi réalisées à ce jour sont exposées, des blocs gris d'apparence et de poids semblables à des briques habituelles, le matériau ressemble en tout point à du calcaire. Suzanne Lambert, étudiante en génie civil, membre de l'équipe de recherche, admire la manière dont ont été copiés des processus naturels. Ce procédé imite la façon dont le corail se forme et les processus naturels de production de ciment, observe-t-elle. Les briques habituelles sont fabriquées dans des fours où elles sont cuites à 1400 degrés Celsius, un procédé qui provoque d'importantes émissions de dioxyde de carbone. Les biobriques, elles, sont cultivées dans du sable où sont semées des bactéries pour produire une enzyme appelée uréase. Celle-ci réagit avec l'urée présente dans l'urine pour produire un composé semblable à du ciment qui s'associe avec le sable. Le produit ainsi obtenu peut être moulé à sèche et essèche à température ambiante, sans four ni émission de gaz à effet de serre. Nous utilisons l'urine habituellement considérée comme un déchet au sein d'un processus entièrement durable, souligne le professeur. Et pour ceux qui s'inquiéteraient d'avoir des murs qui sentent mauvais, eh bien l'odeur ammoniaquée qu'engendre l'urine humaine se dissipe en quelques jours de séchage des briques. La résistance du matériau peut être ajustée aux besoins spécifiques d'une construction, souligne Vuketa Mukari, l'autre étudiant qui a participé à la recherche. Les biobriques produites jusqu'à présent se révèlent aussi solides que des briques couramment sur le marché. Elles sont déjà fabriquées aux États-Unis, mais à partir d'urine de synthèse, celles produites en Afrique du Sud sont les premières à utiliser de l'urine humaine. Le prix de ce matériau, enfin innovant, se révélera déterminant pour savoir s'il pourra concurrencer les briques classiques. Aujourd'hui, il est trop tôt pour en avoir une idée, nous sommes très loin d'une véritable commercialisation, avertit le professeur. Actuellement, nous avons besoin de 20 à 30 litres pour créer une brique de taille standard. Cela paraît effectivement beaucoup, mais l'urine est composée et constituée d'eau à environ 90%, rappelle-t-il. Nous recherchons donc comment réduire le volume d'urine nécessaire pour faire une brique, et je suis sûr que d'ici quelques années, nous aurons de bien meilleurs résultats. Voilà, c'était tiré du soleil, et les maisons en urine humaine, bah, c'est peut-être pour demain.
Devant moi, je me sens humble et visible. Si tu cherches le trouble, je t'aurais avisé que tu pourrais être la cible d'une balle perdue. Pense pas donc, c'est pas la peine, j'ai rien à perdre, je suis blindé. J'ai foncé tête première, j'ai fessé dans le mur de briques. J'ai gardé son air bête, j'ai recommencé rien que pour faire le comique. J'ai demandé juste de même, pourrais-tu au moins faire semblant que je suis drôle. Il s'est effondré sur moi, il s'est mis à pleurer sur mon épaule. Mon pauvre enfant qui me dit, allez, t'es fatigué, va t'en coucher.
Fortin et sa chanson Le Mur.
Et Yves-Olivier, vous allez nous parler d'un autre matériau naturel.
Tout à fait.
Naturel. Alors, est-ce pour faire des maisons ou pas du tout?
Pas ici. oui, pas de ce côté-ci de l'océan. Ailleurs, je devine bien.
Nous vous écoutons.
Je suis sûr que c'est possible, hein, vu qu'on fait des briques avec de l'urine.
Tout est possible.
Je pense que tout est possible.
Nous sommes dans un monde de possibilités.
Surtout dans le domaine de la construction. Parenthèse refermée. Alors, je voulais rester en fait dans le niveau de sérieux et de science. Hein, mm-hmm. Après l'espace, l'urine et les briques. Je me suis dit, non, c'est pas le temps de commencer à parler de mode. Restons dans des sujets sérieux. Et j'ai une bonne nouvelle pour nos auditeurs. S'ils ont manqué la coche de ramasser des feuilles mortes, ben laissez faire, c'est pas grave. De toute manière, il y a une tempête dehors et on vient d'apprendre, la science le dit, que c'est une fausse bonne idée. En effet, vous le saviez ça, messieurs ?
Non, ben okay. Tout ce que vous lisez, vous nous l'apprenez, bien évidemment.
Bon, j'espère bien. Et surtout, messieurs, prenez garde. Je me suis fait avoir il y a quelques semaines. On m'a invité en banlieue à aller bruncher. Je pensais que je m'en allais voir des amis et bruncher avec des amis. Sauf qu'une fois le brunch fini, je suis allé ramasser des feuilles mortes. 75 sacs de papier plus tard.
On perd si facilement des
j'avais
amis.
J'avais déjà faim. Voilà. Donc, les feuilles mortes au sol protègent de petits insectes, une source alimentaire importante pour les oiseaux durant l'hiver, affirme un organisme pour la protection de l'environnement. Conservation de la nature Canada demande aux Canadiens de ne pas les ramasser. C'est un texte trouvé dans la presse. C'est une bonne nouvelle si vous n'aimez pas cette tâche automnale. Laisser les feuilles mortes au sol est la bonne chose à faire pour l'environnement, assure un porte-parole. Les Canadiens peuvent aussi aider les oiseaux à survivre à l'hiver en ne nettoyant pas leur jardin à la fin de l'été. Ça, vous saviez comme ?
Disons que je trouve ça toujours plus intéressant de laisser un jardin en friche. Non seulement c'est plus naturel et plus agréable à l'œil.
Très bien. Bon, ben voilà. Donc, les fruits et les semences qui restent sur les fleurs et les arbustes fournissent une nourriture essentielle pour de nombreux oiseaux, dont les chardonnets, les geais et les mésanges, explique un biologiste de conservation de la nature Canada, Dan Cross. Vous confirmez, Com ?
Tout à fait.
Oui, tout à fait. Vous êtes notre expert scientifique de l'équipe. Pour ceux qui craignent d'étouffer leur pelouse ou de bouffer leur gouttière, Andrew Holland propose de déplacer les feuilles sous des buissons, par exemple. Ces feuilles fournissent un bon paillis pour les arbustes et aident à prévenir le cycle gel-dégel des racines pendant l'hiver, explique-t-il. Scotts Canada, une entreprise spécialisée dans l'entretien des pelouses, recommande d'utiliser une tondeuse à gazon pour réduire les feuilles en paillis et d'appliquer un engrais d'automne riche en azote. Enfin, certaines villes collectent et compostent les feuilles mortes, ce qui permet à leurs citoyens d'avoir une pelouse à l'apparence bien propre.
En conclusion, donc, ne faites plus rien avec votre jardin, c'est ça.
Laissez faire la nature.
C'est tellement plus beau.
Faites-vous un cocktail, je vais vous en parler tantôt.
Poursuivons avec un sujet tout aussi philosophique que le vôtre, Yves-Olivier. Parlons de la vie, tout simplement.
De la vie, exactement. Comment est apparue la vie sur Terre ? Est-ce que vous avez la moindre idée ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?
Eh ben, y a une histoire de pomme, je crois, au début, d'un serpent. Voilà.
Exactement, c'est tout à fait mon créneau. Je vais vous parler de pommes. Non, effectivement, donc comment la vie est-elle apparue sur Terre ? Cette question que se posent les scientifiques depuis des décennies n'est pas encore résolue, effectivement. Et aujourd'hui, deux hypothèses prévalent. La première propose que les précurseurs des molécules biologiques ont été livrés sur Terre grâce aux météorites et aux comètes. Preuve est en fait que de tels éléments peuvent être synthétisés par des processus chimiques dans l'espace. Cette première hypothèse est connue sous l'appellation de panspermie. La seconde estime quant à elle que des acides aminés, les blocs constitutifs de la vie, ont pu se former dans l'atmosphère primitive de la Terre, ou dans les profondeurs océaniques, à proximité des sources hydrothermales. Là aussi, plusieurs arguments alimentent cette seconde option, que l'on connaît sous le nom de biogénèse. Et elle vient d'obtenir une nouvelle confirmation, avec la découverte de molécules complexes dans des roches océaniques profondes. Ces molécules, des acides aminés, ont été extraites dans des échantillons prélevés par forage à environ 175 mètres de profondeur lors d'une expédition internationale. Cette dernière a eu lieu sur la lithosphère océanique du massif Atlantis, qui est une montagne sous-marine haute d'environ 4000 mètres et située à proximité de la dorsale médio-atlantique. Les échantillons ont été analysés par une équipe européenne qui publie début novembre 2018 ses résultats dans la revue Nature. Les chercheurs y annoncent la découverte d'acides aminés aromatique, dont du tryptophane, un des 8 acides aminés essentiels pour l'homme et également un précurseur d'autres composés importants. Selon les auteurs de l'étude, ces acides aminés se sont formés lors de l'interaction entre des minéraux, des roches issues du manteau terrestre et l'eau de mer. De façon purement physique, sans l'intervention d'un quelconque processus biologique, cette observation fournit le premier indice certain qu'un tel processus peut se produire dans des roches terrestres, dans des conditions proches de celles qui régnaient sur la Terre primitive, explique-t-il dans un communiqué diffusé par le CNRS. Un argument de plus en faveur de l'hypothèse d'une origine terrestre de la vie. Mais ce débat est encore loin d'être tranché. Effectivement, il y a toujours l'histoire de la pomme qui, moi, me séduit un peu plus.
Je propose que nous en débattions hors antenne parce que j'ai plein de questions à vous poser, comme.
Très bien, très bien.
Toutes les suives se promènent en botch, soit à New York, soit à la Mecque. Toutes les lièvres, c'est des quick lunch, la peau, les os, le poêle avec. Toutes les rivières vont à la mer, toute la bière y va aussi. Le reste du monde s'en va nowhere, mais pour ma part, je reste ici. C'est quoi l'affaire des quatre projets, un casino et une autoroute? On fera aussi bien de changer de sujet, sinon ces méga n'ont pas tout. On vend pas le paradis terrestre, c'est au bon Dieu ce qui en reste. As-tu besoin d'un 5 étoiles quand t'en as 5 millions dans le ciel? Déménager mon lac sans déranger, canon, c'est pas possible, pas qu'on 15 morts. S'il y a plus de petits melots dans la boîte à bois, s'il y a plus de colibri dans mon whisky, moi, m'a pas là. Et oui, c'est ça la vie. J'suis arrivé 7 ans 1800 en poursuivant le papillon. Et tous les soirs depuis ce temps, c'est moi qui donne le réveillon. À l'ombre des oiseaux en fleurs, sous le feuillage des épinettes. Je suis accablé de labeur, je vous donne un exemple vite fait. Tempête de neige sur mon balcon, ça m'occupe une partie de la nuit. C'est long, classé toutes les flacons, surtout marqué numéro de série. Pis ça c'est rien, demain 5 heures, c'est les poussages de toi et sapin. Là faut que je m'en aille, je suis porteur aux funérailles du maringouin. J'ai mon accent dérangé, canon, c'est pas possible, pas qu'on tient sa mort. S'il y a plus de tulot dans boîte à bois, s'il y a plus de colibri dans mon whisky, moi, moi, pas là. Et oui, c'est ça la vie. Petite confidence, j'aime bien la bière, faut des bidous, ça je l'ai compris. Un compromis fera mon affaire, rien que pour vous, on va faire un prix. Comment ça vaut une veste de loup, du jus de tonnerre, la pente avant. Une douzaine d'œufs de carcajou, j'ai tout ça dans mon débriant. Spécial mouche noire qui sodomise les beaux bluets avant l'été. C'est 20 bières chaque, les taxes comprises, l'armée en sus pour les compter. Là j'additionne, c'est ça mon ville, en ajustant perte de jouissance. Il y aura puissance mille en dessous d'un table payable d'avance. Déménager mon lac sans déranger canon, c'est pas possible de faire qu'on tient sa mort. S'il y a plus de petits melots dans la boîte à bois, s'il y a plus de colibri dans mon whisky, moi, moi, pas là. Eh oui, c'est ça la vie. Eh oui, c'est ça la vie.
Et oui, c'est ça la vie. Richard Desjardins sur les ondes de Canal M.
Changeons complètement de sujet. Je vais vous parler d'une armée. A priori, si je vous dis armée, on pense plutôt protection des frontières, protection des populations, éventuellement mission humanitaire, parfois maintenir la paix dans le monde. Mais on pense moins, et pourtant ça va se passer, à... Comment présenter ça? Une armée qui se lance dans le commerce de noix de cajou. Eh bien, c'est possible et ça se passe en Tanzanie. Le président tanzanien John Magufuli a ordonné à l'armée d'acheter toute la production nationale de noix de cajou de la saison en cours, après que les négociants privés eurent refusé de rémunérer les agriculteurs au prix fixé par le gouvernement. le président Magufuli a ordonné à l'armée d'acheter la production à un prix de 3300 shillings tanzaniens le kilo. C'est impressionnant comme ça, mais ça fait environ 1,91 dollars canadiens, je précise. Soit un cours bien supérieur à celui qu'étaient prêts à payer les négociants, accusés d'offrir un prix insuffisamment rémunérateur aux producteurs. En octobre, il avait décrété un doublement du prix, alors fixé à 1500 shillings le kilo, et qui, selon les agriculteurs, ne couvrait même pas les coûts de production. Mais les négociants ont refusé de s'ajuster sur ce prix, ce qui a motivé la décision du chef de l'État, lequel a dénoncé les tergiversations des opérateurs privés qui, par ailleurs, offrent des prix très bas. La noix de cajou est une des principales cultures d'exportation de la Tanzanie. Monsieur Magufuli a demandé à la Banque tanzanienne de développement de l'agriculture de débloquer les fonds nécessaires pour l'achat de ces noix de cajou et à l'armée de déployer ses éléments pour acheter toute cette production. Samedi dernier, Monsieur Magufuli avait renvoyé le ministre de l'Agriculture, Charles Tizeba, et celui du Commerce, Charles Mijagwe, accusés d'avoir manqué à leurs obligations dans la gestion de cette filière. Le chef de l'État tanzanien a également décidé que l'exploitation de l'usine de transformation des noix de cajou, où elles sont décortiquées, serait confiée à l'armée également. Le gouvernement tanzanien table sur une production nationale de 210 000 à 220 000 tonnes pour l'année 2018 tout de même, pour ce petit pays. Nous allons acheter toute la production, nous chercherons ensuite des acheteurs et nous consommerons ce qui ne pourra pas être vendu, a assuré le président. Sa décision a été critiquée par les hommes d'affaires de l'opposition et l'opposition qui l'accuse d'aller à l'encontre de la politique officielle du gouvernement de libéralisation du commerce. Depuis son élection en 2015, M. Magufuli est souvent entré en conflit avec les entreprises du secteur privé qu'il accuse régulièrement de léser les Tanzaniens et il a donc fait appel à l'armée. Nous revenons dans quelques instants et peut-être en seconde partie d'émission aurons-nous enfin le secret tant attendu que couvre Olivier depuis deux semaines. Pourquoi les mannequins ne sourient pas? Nous trépignons d'impatience.
Et surtout le cocktail de
c'est
la semaine.
C'est peu de le dire et le cocktail de la semaine.
Avec des noix de cajou.
Les défilés, les photos de magazines et les publicités de mannequins affichent presque toujours un visage très sérieux. Pourquoi les mannequins ne sourient-ils pas ? Ah. Un texte d'Olivia Lévy dans la presse. Préparez stylos et papier.
C'est parti.
Pour les gens qui travaillent dans le milieu de la mode, cette moue sérieuse, voire boudeuse, des mannequins est une normalité. La photographe Maud Arsenault explique que tout ce qui relève de la haute couture et qui concerne la création de designers a toujours été vu de façon très élitiste. L'élégance, le chic et le luxe ne sont pas associés à une femme souriante et joviale. Faut croire que je ne suis pas élégant, chic, et parce que je souris trop. Dans les 20 premières années de ma carrière de photographe de mode, à partir du moment où il y a un sourire, ça devenait une image commerciale, bas de gamme, indique-t-elle. Les seules campagnes où on voyait des femmes sourire étaient pour des vêtements ou des marques très accessibles. Un avis que partage Madeleine Goubeau, chargée de cours à l'école supérieure de mode ESG UQAM. La moue sérieuse contribue au sentiment d'inaccessibilité du luxe, car un sourire est sympathique et invitant. Selon Marie-Ève Aymon, créatrice de Bettina Lou, le fait de ne pas sourire est un code implicite dans l'industrie de la mode qui est difficile de briser. Sur nos photos, on essaie que nos mannequins aient un air naturel, neutre, sans être snob ou inaccessible, estime la designer. On fait souvent des blagues lors des séances de photographie que si la mannequin prend une certaine pose ou sourit, on dit que ça ressemble trop au catalogue Sears, confie Marie-Ève Aymon. Sears, on vous salue. Nadia Toto, créatrice de la marque du même nom, estime que les collections de vêtements haut de gamme peuvent être considérées comme des œuvres d'art et que son travail doit être pris au sérieux. Ce n'est pas le sourire qu'on veut voir, mais le vêtement avant tout, et ça a toujours été comme ça. Il y a des raisons historiques et culturelles à cette absence de sourire. Charles Frederick Worth, né en 1825 et mort en 1895, premier grand couturier de l'histoire de la mode, considérait le mannequin comme un support, entre guillemets, qui servait uniquement à présenter les vêtements et n'était pas considéré comme une personne, explique Luca Marchetti, professeur de théorie et culture de la mode à l'école supérieure de la mode ESG UCAM. Il raconte une anecdote révélatrice. Au début du XXe siècle, le célèbre couturier français Paul Poiret a donné une entrevue dans laquelle on a voulu poser des questions à ses mannequins. Furieux, le couturier se serait alors interposé entre les mannequins et le journaliste en répondant « Ne leur parlez pas, elles n'existent pas ». Ça démontre bien à quel point le mannequin avait une utilité purement fonctionnelle, raconte le professeur. Ce n'est que plus tard, dans les années 50, à l'époque de Christian Dior, qu'on observe un changement. La culture change avec l'explosion des médias basés sur l'image qui est fondamentale et la photographie en couleur. Il faut que la haute couture et le prêt-à-porter communiquent une identité personnelle. Les mannequins commencent à faire des sourires et à exprimer leur personnalité, affirme Luca Marchetti. Le prêt-à-porter perd par la suite sa valeur, haute couture, et a besoin d'en avoir une identité pour rayonner. Il faut donc désormais communiquer une dimension luxe que le vêtement n'a pas. Alors qui dit luxe dit inaccessible. Le vêtement promet alors un imaginaire. Le luxe, en latin luxus, signifie superflu, écart, éloignement des choses, communes et quotidiennes. On sacralise les vêtements et les mannequins ne nous considèrent pas, on ne fait pas partie de leur monde, d'où l'absence de sourire, l'air hautain et le regard lointain, résume le professeur Marchetti. Le rédacteur en chef du magazine de mode Dress to Kill, Stéphane Leduc, pense que cette absence d'expression permet de mettre l'accent sur les vêtements. Même sur les réseaux sociaux, les nombreux blogueurs et influenceurs se font photographier sans sourire, sauf exception. Il y a une volonté d'anonymat. D'ailleurs, on ne connaît presque plus les mannequins, elles sont anonymes, sérieuses, neutres. Il évoque les années 90, où les mannequins étaient des superstars, la grande époque de Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer. J'aime bien, j'ai Jean-Sébastien en régie qui acquiesce, oui, bah, donc... Voilà. Il connaît bien son histoire des années 90. Quand on regarde des photos de Linda Evangelista, elle est souriante, épanouie. Ses mannequins étaient voluptueuses et le sourire suivait, puisqu'elles avaient de la personnalité. Après, il y a eu le vent contraire. Les mannequins se sont effacés et le sourire a disparu. Il y a des exceptions. Dans les défilés de Jean-Paul Gaultier, de Sonia Rykiel et de Diane von Furstenberg, les mannequins incarnent la joie de vivre. La créatrice américaine Diane von Furstenberg donne la consigne à ses mannequins de sourire. Elle donne le goût avec son nom. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
C'est peut-être son secret.
Donc, c'est peut-être une autre des raisons pour lesquelles elle ne sourit pas. Elle a une esthétique qui met en valeur la femme forte et assumée. Une femme qui a du plaisir, c'est important, car c'est son image de marque, souligne Madeleine Goubeau. Comme la mode fonctionne par cycle, le sourire est en train de revenir doucement. Ariel Day, agente de mannequin chez Folio, assure qu'elle tente de casser ce stéréotype. C'est en train de changer. On demande à nos mannequins de montrer leur personnalité, de sourire, d'être spontané, de rire, autant dans les magazines que dans les défilés, car on veut montrer un côté moins sérieux de la mode. La photographe Maud Arsenault pense aussi que le sourire s'invite davantage dans les campagnes. Certains de ses collègues reconnus montrent des femmes plus souriantes, tout comme certaines marques. On met de l'avant de nouveaux modèles féminins, des femmes épanouies, libérées, plus authentiques et des modèles issus de la diversité. On s'entend qu'il y a un changement.
Merci Olivier d'avoir fait toute la lumière sur ce mystère de la vie.
Et chers auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai la semaine prochaine. Je demanderai à Diane Furstenberg.
Tu fais tourner les têtes, virer les fêtes. On te voit dans nos rêves, mais tu ne souris à personne. Nos sentiments se mêlent dans la peur et la gêne. Sur nos visages blêmes, tu ne souris à personne. Tu ne souris à personne, personne. Nos pieds sont cloués au sol. Tu nourris le mythe, tu ne souris à personne. On revient encore sans jamais cesser de croire.
t'échappes, tu sombres ou tu dérapes, on te tend les bras même si tu ne souris à personne. Tu nous coupes le souffle, tu nous prives, nous emballes, nous dénouvoiles sans jamais sourire à personne.
Moi qui m'attendais à faire jouer cette chanson la semaine dernière, il aurait fallu patienter jusqu'à aujourd'hui pour connaître la fin de la saga des mannequins qui ne sourient pas. C'était Rémi Chassé qu'on vient d'entendre. Tu ne souris à personne.
Merci.
Très bien, messieurs. Alors, repartons sur des thèmes qui me passionnent un peu plus que la mode, effectivement. Pouvez-vous me dire ce qu'est une seconde exactement ?
Une seconde.
Qu'est-ce qu'une seconde ?
Eh bien, une seconde, c'est le temps nécessaire à certains pour franchir 10 mètres. Je pense à une poignée d'athlètes.
Effectivement,
voilà.
Par exemple.
C'est ma définition,
définition
de la seconde.
C'est un soixantième de minute.
Exactement.
Pour parler ton langage comme...
C'est parfait.
Ça fait plus de sens.
C'est exactement ça. Alors qu'il s'agisse d'agriculture, de voyage, d'observation du monde... Mesurer le temps a toujours été une nécessité pour les activités humaines. Dès l'Antiquité, nos ancêtres ont cherché à découper le temps en unités dénombrables. Le plus évident pour cela est de se baser sur l'observation de phénomènes cycliques, tels que l'alternance jour et nuit, ou bien les phases de la Lune, ou le passage des saisons. Très tôt, des calendriers décrivant ce rythme naturel des saisons sont mis en place par les premières civilisations. Tous ne comportent pas le même nombre de jours. Mais certains, comme ceux des Égyptiens, sont très voisins d'une autre. Ainsi, 2 millénaires avant Jésus-Christ, les Égyptiens comptaient déjà des années de 365 jours divisées en 12 mois de 30 jours. Ces cycles ont servi de base pour découper le temps en unités suffisamment petites pour rythmer les activités au cours d'une journée. Le découpage d'une journée en 24 unités temporelles d'une heure est une notion très ancienne puisqu'elle remonte au moins à Ptolémée, brillant astronome de l'Antiquité grecque. Dans son célèbre recueil de mathématiques et d'astronomie, l'Almageste, écrit au IIe siècle après Jésus-Christ, il décrit des journées divisées en 24 heures. Je cite « heures qui étaient sans doute mesurées à l'aide d'un cadran solaire », explique l'astronome et conseiller scientifique auprès du directeur du musée des arts et métiers, Denis Savoie. Mais là n'est pas le plus impressionnant. Ptolémée et ses contemporains avaient déjà compris à l'époque que la durée du temps solaire était variable d'une journée à l'autre. En effet, il ne s'écoule pas tout à fait 24 heures d'un jour à l'autre, car la vitesse de la rotation de la Terre n'est pas uniforme, détaille Denis Savoie. Et ce, du fait de plusieurs facteurs. L'inclinaison de l'axe de la Terre, ou encore le fait qu'elle se déplace plus vite sur son orbite, légèrement elliptique, lorsqu'elle est à son périgée, c'est-à-dire le point le plus proche du Soleil. C'est la raison pour laquelle Ptolémée définit donc un temps solaire moyen calculé sur l'année. La notion de seconde n'est d'ailleurs pas étrangère à Ptolémée. Dans son œuvre, il présente un sous-découpage des heures en minutes, correspondant à 1/60 d'une heure, et en secondes, correspondant à 1/60 de minute. Donc, Yves, votre définition était plutôt intéressante, effectivement. Pourquoi découper l'heure en 60 fragments, et pas 12, 20 ou 100, ou tout autre nombre de votre choix ? Parce que l'astronomie grecque est une héritière de l'astronomie babylonienne, qui effectuait tous ses calculs sur une base sexagésimale, c'est-à-dire sur une base 60. je m'explique. L'une des hypothèses pour expliquer ce choix est que le système sexagésimal présente l'avantage de pouvoir être divisé facilement. En effet, 60 peut être divisé par 60, 30, 20, 15, 12, 10, 6, 5, 3, 2 et naturellement 1. Et oui, ça en fait. Et donner à chaque fois un nombre entier. Ce choix s'est imposé au monde de l'astronomie, puis à la mesure du temps. On notera toutefois quelques tentatives pour proposer des systèmes alternatifs. Pendant la Révolution française, une tentative de décimalisation de l'heure a eu lieu. Les révolutionnaires ont tenté de mettre en place des journées de 10 heures, découpées chacune en 100 minutes, elles-mêmes découpées en 100 secondes. Sur les quelques horloges décimales qui ont été construites à l'époque, une heure décimale équivalait à 144 minutes actuelles. Toutefois, ce système n'a survécu qu'environ 16 mois avant de tomber dans l'oubli à jamais. Mais les astronomes de l'époque n'arrêtaient pas leur découpage du temps à la seconde. Cette dernière était également divisée en tierces, 1 soixantième de seconde, elle-même divisée en quartes, 1 soixantième de terce. Il ne s'agissait là toutefois que d'une division théorique, car aucun appareil de mesure n'était à l'époque assez précis pour mesurer précisément le temps, ne serait-ce qu'à l'échelle de la seconde, poursuit Denis Savoie. Le premier appareil à avoir été capable de le faire n'est apparu que beaucoup plus tard. Il s'agit d'un pendule à balancier mis au point en 1673 par le physicien néerlandais Christian Huygens. Cette mesure du temps, et de la seconde, liée à la rotation de la Terre, va perdurer jusqu'au 19e siècle. Jusqu'en 1960, le Bureau international des poids et des mesures définissait encore la seconde comme une fraction de 1,86.400 du jour solaire moyen, décrit par Ptolémée. Mais ce système de mesure est bancal, notamment parce que la rotation de la Terre se ralentit inexorablement à cause des marées océaniques, des alizés ou encore des mouvements géophysiques. Ce qui conduit le bureau à rapidement revoir cette définition pour en proposer une autre, à peine moins bancale car basée sur une année de référence, mais obscure à souhait dans son énonciation. En effet, en 1960, la seconde est désormais définie comme la fraction 1 sur 31,566,925,9747 de l'année tropique pour 1900, janvier, 0 à 12 heures, de temps des éphémérides. Voilà, je vous demande de me le répéter, s'il vous plaît. Ce temps des éphémérides survivra pendant 7 ans jusqu'à laisser place à un nouveau référentiel beaucoup plus précis, la vibration des atomes. Depuis cette date, et aujourd'hui encore, la durée de la seconde est définie par la fréquence de vibration de l'atome de césium. Une seconde est représentée comme la durée de 9,192,631,770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome de césium-133. Oui, Yves ?
Petite question, est-ce que malgré tout ce que vous nous expliquez, ça se pourrait qu'on rechange bientôt la...
Qui sait,
c'est un peu ce que ça dit, c'est que ça a changé.
Je sais que le kilogramme a été changé il y a à peine 2 semaines, il me semble, mm-hmm. par le bureau des poids et mesures, justement.
Ah oui,
pourquoi pas.
Ah ben,
ça serait une très bonne idée. Et donc, pourquoi ce chiffre ? Tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait toujours 86 400 secondes en 24 heures et que ce nombre de vibrations est celui qui y correspond le mieux, explique Denis Savoie. De fait, la précision d'une horloge à césium est telle qu'elle mettrait une centaine de millions d'années à se décaler d'une seule seconde. Toutefois, la quête de précision étant sans fin, les horloges atomiques pourraient basculer dans une autre dimension en passant un jour du césium au strontium. Ces dernières, parce qu'elles battent plus vite, pourrait ne se décaler d'une seconde qu'au bout de 10 milliards d'années.
Nous voilà rassurés. Thank you. Et après toute cette science, tous ces chiffres, je vous ramène à des considérations un peu plus terrestres, un peu plus insolites. Je vais vous parler de deux petites nouvelles qui se sont toutes deux produites à Paris et qui concernent des animaux. Un lionceau et une chèvre, ça ferait presque une bonne fable de La Fontaine. Des policiers français qui avaient interpellé une Lamborghini pour une infraction au code de la route ont eu toute une surprise en découvrant un lionceau sur la banquette arrière. Des militants pour les droits des animaux soulignent que les petits félins sont de plus en plus fréquemment achetés ou loués par les gens intéressés à prendre des égoportraits spectaculaires, des selfies. Le lionceau est âgé de moins de 2 mois et il serait probablement mort si les policiers ne l'avaient pas secouru en interpellant la luxueuse voiture sur les Champs-Élysées lundi passé. La directrice de la fondation 30 millions d'amis qui s'occupe maintenant du lionceau a expliqué qu'on pouvait acheter un bébé lion dans un cirque pour seulement 300 euros environ. Selon Réa Hutin, cette mode semble être arrivée en France en provenance des pays du Golfe, où des nantis se prennent en photo en compagnie d'un petit félin dans des voitures de luxe avant d'abandonner l'animal lorsqu'il devient trop gros. Elle affirme que 3 lionceaux ont été sauvés depuis un mois en France et 6 depuis le début de l'année. Un vétérinaire qui a examiné le pauvre petit lionceau l'a trouvé affaibli. Il avait aussi une blessure à une patte et avait perdu le bout de sa queue. Il a été placé en quarantaine dans un refuge animalier à l'est de Paris et sera éventuellement présenté aux 2 lionceaux secourus en octobre. Et à Paris toujours, un animal un peu moins mignon peut-être, un peu plus odorant, une chèvre. Un homme a volé une chèvre préposée à l'entretien des pelouses du jardin des Tuileries près du musée du Louvre. Peu après 8h30 mardi passé, le voleur présumé a tenté d'emporter 2 chèvres chargées de brouter les pelouses du côté du Louvre, a indiqué une personne chargée de la surveillance. Empêché par des agents, l'homme n'est parvenu à emmener qu'une seule des 2 chèvres. Il a alors emprunté la ligne 1 du métro qui dessert de nombreux sites touristiques dans la capitale. À 8h39, des agents repèrent un individu avec une chèvre à la station Tuileries, a confirmé la compagnie des transports. Devant l'attitude de l'homme menaçant, agressif et qui refusait de sortir du wagon, la RATP a alors interrompu le trafic entre les stations Châtelet et Concorde pour permettre l'intervention de la police. La chèvre a ensuite été prise en charge par des agents des Tuileries et la personne interpellée. Le trafic a pu reprendre sur l'ensemble du réseau. Voilà donc, Paris est en émoi en ce moment, ça, les animaux sont dans tous les sens, les pauvres, on les traite mal.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit, tout ça parce qu'il s'aime à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent front, les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient de Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme 2 collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y'a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y'a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Y'a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et y'a ceux qui ont fait leur nid près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravel sur la Seine. des ennuis. Il y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, il y a pas partout Paris, voilà l'ennui. À Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans chaque faubourg et chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris.
Un petit tour à Paris avec Zaz.
Ah, Zaz. Voilà.
Il y avait d'un côté de la table quelqu'un qui aimait bien et l'autre pas. Je ne dirais pas.
Ça m'a inspiré un petit jeu de mots. Avec Zaz, ça suffit. Non, ok, bon, bah, ouais, 2 sur 10. Alors, je ne sais pas pour vous, chers auditeurs, mais la température extérieure m'inspire deux choses.
Mm-hmm.
Tout d'abord, un voyage en Islande.
D'accord.
Donc ça, c'est plutôt self-explanatory, hey, hein, pour ceux qui... Mm-hmm. Voilà. La deuxième chose, ça m'inspire le temps des fêtes. Et qui dit temps des fêtes, qui dit une boisson, un cocktail qui va avec. Et j'ai nommé le Kir Royal. Oh. Oui ? Non ? Oui ?
Oui. 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 Oui.
Comme c'est dans
vos... Plaisir. Allez-y. Fait,
hein. Très simple. Hein, ça se retient très bien. C'est un demi-once de liqueur de cassis et trois quarts d'once de vin blanc mousseux ou prosecco, champagne, bon, pas de bière quand même, mais voilà, n'importe quoi avec des bulles. Vous versez tout la liqueur en fait de cassis dans une flûte suivie du vin mousseux bien frais. Voilà. À déguster avec modération. Bah,
c'était
entendu.
Compliqué cette semaine.
C'est ça.
Merci.
Et
pour
sinon,
la
donc l'Islande. L'Islande, Louis, vous, l'Islande ?
J'y suis déjà passé quelques jours, oui, en revenant d'Europe.
Vous avez aimé ?
J'ai beaucoup apprécié et c'est d'ailleurs la première fois que j'ai conduit dans une tempête de neige.
Ah.
Oui, ça, je pensais que ça arriverait au Québec, et bien non, c'est en Islande.
En fait, tous les Français devraient faire ça. Hein. Un petit séjour en Islande pour se pratiquer au Québec. Hein. Qu'est-ce qu'on s'en pensait ? Alors, moi, je vais vous parler de Félix Desbiens à travers un texte de Joanie Bilodeau. Travailler tout en découvrant une nouvelle partie du monde, c'est ce qu'il a fait. Il a expérimenté ça cet automne. Pendant un mois, le Saguenéen a offert de son temps dans une ferme d'élevage de moutons. Hein, voilà, on reste dans le même thème. Voilà, situé près du village de Djupivogur, dans l'est de l'Islande, en échange du logis et du couvert. Son travail, marcher de longues heures à flanc de montagne pour amener les moutons à la ferme après qu'ils eurent passé l'été dans la nature. Les tâches ne manquaient pas chez le couple qui a accueilli le voyageur. Au cours des 20 à 30 heures travaillées par semaine, Félix a également nourri les moutons, réparé un plancher et donné un coup de main aux cuisines. C'est en cherchant à voyager à moindre coût que le vingtenaire s'est arrêté sur l'Islande. Bien que le coût de la vie soit élevé dans ce pays, Félix a trouvé son compte avec le réseau mondial Walkaway qui met en contact des voyageurs et des hôtes qui ont besoin d'un coup de main. Celui qui a pris une session sabbatique dans son baccalauréat a été charmé par l'Islande pendant son aventure en solo de 38 jours. Les volcans, les geysers, les vallées, les cascades, les sources d'eau chaude naturelle, tant de paysages qui ont émerveillé le voyageur. En plus du décor, les rencontres profondes avec ses hôtes et le voyageur allemand qui travaillait aussi à la ferme.
Je pense que vous avez buté sur un mot, Yves-Olivier. Il y a sûrement aussi des geysers en Islande, mais il y a surtout des geysers, à mon avis. Ce sont des geysers.
On s'est rendu compte, mais j'étais lancé.
Tentons de poursuivre.
Voilà. Donc, qui travaillaient aussi à la ferme ont agrémenté l'expérience de Félix. Après une pause au Québec... Excusez-moi. Félix, on s'excuse. Le Saguenéen s'installera à nouveau à bord d'un avion dans une dizaine de jours. Direction Oman, rien à voir. Au Moyen-Orient, et peut-être les Émirats Arabes Unis en compagnie de son papa. Félix, on vous salue.
Et si vous trouvez des geysers à Oman, appelez-nous, tenez-nous au courant. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Cette émission s'achève en fanfare avec un fou rire. Merci à vous deux, merci Com, merci Yves-Olivier pour toutes ces nouvelles. Merci également à Mathieu en début d'émission et Jean-Sébastien La Liberté pour la mise en onde et les choix musicaux. On se retrouve eh bien, dès la semaine prochaine en joie, en bonne humeur comme d'habitude. Bonne semaine à tous.